L'hôpital est un monde étrange, comme une forêt de regards. Le médecin observe. L'infirmier sent sur lui tous les yeux braqués des malades. Le malade se sait regarder et regarde le médecin qui l'observe. Il regarde autour de lui ceux qui souffrent et il sait bien que, le soir où il mourra, tous ces regards fiévreux le guetteront dans la pénombre.
Bonjour, vous êtes sur Radio Aligre, l'émission Philosophie au présent, aujourd'hui consacrée à Foucault et la mort. Ces mots que l'on vient d'entendre sont précisément ceux de Michel Foucault, tirés des Nuits de France Culture lors d'une première diffusion en 1963 sur le thème « Douleur et souffrance ». Le philosophe français qui est né en 1926 est mort le 25 juin 1984 à l'hôpital La Salpêtrière, donc presque jour pour jour, 42 ans. Alors parmi les nombreuses raisons pour lesquelles nous avons proposé cette émission, il y a cette troublante révélation après sa mort faite par Didier Fassin. Il était entré à l'hôpital au début d'un long week-end. La conduite à tenir, pour utiliser un terme clinique, face à l'affection dont il souffrait, était en effet en train de changer radicalement. Jusqu'alors, on pratiquait une biopsie cérébrale pour en établir le diagnostic avec certitude avant de mettre en route le traitement. Depuis quelques mois cependant, les rares services spécialisés dans la maladie dont il souffrait, comme celui dans lequel je travaillais, c'est Didier Fassin qui parle, avaient révisé leur stratégie. Considérant à la fois la très forte mortalité post-opératoire observée et à l'inverse les améliorations obtenues par l'administration d'un traitement médical qui guérissait la quasi-totalité des patients de leur infection cérébrale, on recommandait désormais de ne plus pratiquer d'intervention neurochirurgicale pour privilégier le médicament comme épreuve diagnostique. J'avais pu moi-même constater à plusieurs reprises les résultats spectaculaires de cette nouvelle approche. Lorsque j'avais vu Michel Foucault à son arrivée, j'étais donc convaincu que son dossier serait discuté comme le veut l'usage, entre les équipes médicales spécialisées concernées, afin d'établir une stratégie dont je ne doutais pas qu'elle consisterait à lui administrer ce traitement d'épreuve. Il en fut autrement. La décision de biopsier le cerveau, prise très rapidement et sans l'habituelle concertation, eut les conséquences malheureusement prévisibles que j'ai appelées. On ne réécrit pas l'histoire. C'est un texte qui a été publié donc par Didier Fassin dans l'Erne en 2010. On ne réécrit pas l'histoire, non, mais on sait que Foucault n'a cessé de croiser ce thème de la mort dans son travail pour constituer une ligne de pensée discrète, mais tenace et toujours inspirée.
Vous êtes donc ici pour en parler avec nous sur Radio Aligre 93.1, 40 ans de radio indépendante, radio née en 1981, justement l'année du dernier cours de Michel Foucault. Vous êtes en bonne compagnie pour en parler dans Philosophie au présent, l'émission du Collège international de philosophie. Pour parler de Foucault et la mort, nous avons le plaisir d'accueillir trois spécialistes de Foucault. Autour de cette table pour questionner cette thématique, il y a, pour présenter nos invités, Michel Kokoreff, sociologue et directeur de programme de recherche au Collège international de philosophie. Bonjour Michel.
Bonjour.
Il y a aussi moi-même, Marion Pollard, philosophe et directrice de programme également au Collège international de philosophie. Nous avons tous deux tenu à réunir deux spécialistes de Foucault qui sont aujourd'hui autour de la table. Arianna Sportini, maîtresse de conférences en philosophie à l'université Paris-Est Créteil. Bonjour Arianna.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de Foucault, vous avez beaucoup étudié la question du théâtre chez Foucault, mais aussi participé à l'édition de ses œuvres. Philippe Sabot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités en philosophie à l'université de Lille. Vous avez, vous aussi, pris une part active à cette grande aventure éditoriale des œuvres de Foucault. Vous présidez le centre Michel Foucault et vous avez travaillé, entre autres, sur le lien de Foucault avec la phénoménologie. Enfin, je présente une dernière intervenante, internationale, qui n'a pu être parmi nous aujourd'hui, mais a eu la gentillesse de s'enregistrer pour prendre part à la discussion. Ege Céline Islekel est Assistant Professor of Philosophy à la Faculty of Race and Ethnic Studies à Texas A&M University. Elle est notamment spécialiste des pensées qui ont développé la notion de biopolitique à la suite de Foucault, en plus de sa connaissance de Foucault lui-même.
Hi everyone.
Bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci à Marion et Michel de m'accueillir et merci à Marion pour l'aide à la traduction et bonjour à Philippe et Ariana. Je suis triste de ne pas être là en personne, mais très reconnaissante de participer à cette conversation.
Merci aussi à Philippe Donfort à la technique et merci à Camille Marou qui a prêté sa voix au doublage de Céline. Cette émission a lieu, Michel l'a rappelé, presque au jour près, à la date anniversaire de la mort de Michel Foucault, le 25 juin 1984 à Paris, à la Salpêtrière. On se défend avec peine de l'impression que le biographique vient ici percuter le philosophique. Comment, en tant que philosophe, Ariana, Philippe, vous saisissez-vous de cette dimension biographique? Comment lui faire droit tout en menant une lecture philosophique de l'œuvre? On reparlera plus tard dans l'émission du fait que la mort de Foucault comme victime de l'épidémie de sida a une dimension politique, dans la perspective même de ses analyses du biopouvoir. Mais j'aimerais déjà vous entendre brièvement sur cette double perspective biographique, historique et d'autre part philosophique.
Merci. C'est d'autant plus compliqué, je pense, pour un auteur comme Foucault qui a toujours refusé justement l'autorité derrière le nom d'auteur, qui a toujours dit que l'œuvre doit se tenir par elle-même. Et en même temps, si on regarde ses entretiens, par exemple, qu'il a donnés, qui sont recueillis dans les 10 écrits, on voit bien que lui-même fait référence à des éléments de son vécu biographique. Ses voyages, le fait qu'il a souvent été à l'étranger depuis son plus jeune âge, en Suède, en Allemagne, en Tunisie. Ou alors, il y a un entretien que j'aime beaucoup avec Stephen Riggins, où il affirme que ses premiers souvenirs d'enfant sont liés à la peur de la guerre qui devait arriver, c'est les années 30 en Europe, et il explique par là beaucoup de son chemin philosophique. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas en faire un critère herméneutique total. J'ai essayé d'expliquer tout ce que Foucault a voulu dire par une sorte de retour aux raisons secrètes psychologiques liées à sa biographie, mais en même temps, comme il l'a fait, je pense qu'on peut utiliser les éléments. Enfin, c'était un penseur avec un vécu qui s'insérait dans une histoire très concrète, dans une actualité politique, existentielle aussi. Et il en a fait souvent un élément fondamental pour construire son activité de pensée.
Pour ajouter juste un mot, je pense que Céline en parlera tout à l'heure dans l'un des extraits qu'on écoutera, mais il y a un entretien avec Claude Bonnefoy en 1968 où Foucault, de manière assez étonnante, mais il est un peu pressé par son interlocuteur, revient sur son propre parcours biographique, justement, en rappelant le milieu dont il est issu, qui est un milieu médical de province, avec le poids de la parole médicale, ou plutôt la manière, comme il le dit à ce moment-là, dont la médecine traverse la parole des autres sans vraiment l'écouter, en posant finalement des diagnostics sur le corps des gens. Et il y a aussi une incidence sur la question de la mort et de la présence de la mort dans l'écriture de Foucault lui-même, qu'il rappelle à ce moment-là. Il parle de son écriture comme d'un bistouri qui traverse finalement les cadavres, et la surprise pour lui c'est de s'apercevoir parfois que ces cadavres se réveillent, et donc l'agressivité dont il fait part à ce moment-là par rapport aux gens qui le lisent relève de cette expérience du cadavre qui se réveille.
Alors, le fait est qu'on retrouve ce thème de la mort dans un certain nombre de textes, y compris dans le texte renié sur Biswanger, qui, relu aujourd'hui, me semble un texte tout à fait intéressant, dans Sa folie, évidemment, qu'il a mis 10 ans à écrire, dans La naissance de la clinique, notamment lorsqu'il analyse les transformations du regard médical engendré par l'autopsie des cadavres, dans son célèbre texte qui a été évoqué par Yana sur la fonction auteur, où il évoque l'écriture comme absence, comme conjuration de la mort. Dans la toute fin célèbre et fort mal comprise des mots et des choses, vous savez, la fameuse phrase « on peut bien parier que l'homme s'effacerait comme à la limite de la mer un visage de sable », annonçant donc, comme Nietzsche avait parlé de la mort de Dieu, la mort de l'homme. Et encore dans « Surveiller et punir », l'éclat des supplices, dont voilà, celui de Damien, qui constitue l'ouverture de ce livre qui date de 1975 et qui constitue un morceau de bravoure littéraire. La volonté de savoir, on y reviendra, on pourrait dire qu'au vieux droit de faire mourir ou de laisser vivre s'est substitué un pouvoir de faire vivre ou de rejeter dans la mort, ce qu'il appellera le biopolitique. Et alors peut-être de façon particulière, testamentaire, prémonitoire dans le courage de la vérité, avec de longs commentaires sur la mort de Socrate. Comment expliquez-vous, Ariana et Philippe, que la mort n'ait pas été l'objet d'un livre en tant que tel, et quelles sont vos réactions un peu générales à ce rapide parcours ?
Alors peut-être qu'on pourrait penser que écrire un livre sur la mort, ça reviendrait à faire de la mort une réalité, un objet d'étude. Or, ce qui intéresse Foucault, ça n'est pas de transformer la mort en substance, d'en faire l'objet d'une métaphysique, mais plutôt d'évoquer, à travers l'ensemble des textes que vous venez de mentionner, d'évoquer les conditions à partir desquelles conditions historiques à partir desquelles la mort a pu devenir visible, a pu devenir énonçable, a pu devenir aussi gouvernable, comme on le voit avec le biopouvoir. Et donc au fond, ce qui intéresse Foucault, c'est plutôt de rendre compte de l'apparition dans différents champs du savoir et des pratiques humaines, l'apparition de la mort comme finalement issue elle-même d'un partage entre la vie et la mort, puisqu'au fond, la mort n'a pas de sens particulier en elle-même, mais elle s'inscrit toujours dans certains partages qui sont des partages historiquement constitués. Donc en un sens, Foucault n'a pas écrit de livre spécifique sur la mort, mais comme c'était rappelé à travers le parcours de son œuvre, tous ses livres parlent un petit peu de la mort.
Moi, j'ai toujours en tête ces passages de l'éthique de Spinoza où il dit que l'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, que la vraie philosophie, c'est toujours philosophie de la vie. Et en un sens, ça me semble pouvoir s'appliquer aussi à Foucault, dans le sens où justement, Foucault n'était certainement pas un nihiliste. Quand il s'intéresse à la mort, il s'intéresse à la mort comme moment d'une d'existence historique, je parle d'histoire, comme effectivement de la manière dont les hommes à certaines époques se sont appropriés les rituels et qui entourent par exemple la mort, ou alors comment ils ont conçu, pensé, regardé les corps morts, les cadavres. Et plus personnellement, je pense qu'il y avait aussi pour Foucault cette idée ou cette perception de la mort vraiment comme expérience limite, mais non expérience limite qui pourrait effectivement nous faire accéder à une autre dimension, ça en tout cas, bon, c'était pas sa perspective, mais comme expérience limite qui pourrait condenser en un seul moment tous les sens et la signification que nous avons donné à notre même existence. Donc comme sens ultime de la vie au final, parce que c'est là que toutes nos vies seront mises à l'épreuve. C'est un peu ce qu'on retrouve dans les courages de la vérité. Je pense qu'on y reviendra.
Oui, merci Philippe Thabaut, merci Ariana Sforzini d'être avec nous aujourd'hui pour explorer ce thème de Foucault et la mort. Pour étudier cette question de la mort, il semblerait qu'une pièce centrale consiste dans le concept de biopouvoir. C'est un concept que Foucault commence à développer au milieu des années 1970. Pour entrer peut-être progressivement dans cette thématique assez difficile, Philippe, comment est-ce qu'on pourrait définir les notions de biopolitique et de biopouvoir qu'élabore Foucault ?
Alors, ce sont des notions que Foucault propose à partir du milieu des années 70, en insistant sur le fait... on pourrait dire presque en détaillant le sens de biopouvoir, qu'il s'agit d'un nouveau pouvoir sur la vie. Ce pouvoir sur la vie s'oppose à un pouvoir de souveraineté qui était un pouvoir d'exécution. Le supplice de Damien a été cité tout à l'heure. On exécute quelqu'un et on le met à mort directement. Le biopouvoir est un pouvoir qui change de nature dans la mesure où il va s'appliquer non seulement à des corps individuels. C'est ce que Foucault va appeler l'anatomopolitique, c'est-à-dire une politique ou un pouvoir qui porte sur le corps individuel pour le rendre le plus productif possible. On est dans une logique de productivité capitaliste, du point de vue de Foucault, pour rendre compte, disons, de cette importance accordée au corps individuel, au corps de l'ouvrier dans la fabrique. Et puis, il y a une autre dimension qui définit le biopouvoir, c'est la dimension de la population, c'est-à-dire l'attention à des formes de régulation de ce qu'on pourrait appeler maintenant des indicateurs de santé au niveau de la population. Et donc la fécondité, la longévité, les indicateurs de santé généraux d'une population sont les éléments principaux auxquels Foucault s'intéresse, en montrant que cet intérêt est nouveau à partir du XVIIIe siècle. Il y a une nouvelle politique de la santé qui se met en place, qui aboutit à ce qu'on a appelé, dans un terme qui est un peu désuet maintenant, l'hygiénisme, c'est-à-dire une politique qui vise à assainir non seulement les populations elles-mêmes, en les soignant le mieux possible. À l'époque, c'est évidemment moins qu'aujourd'hui. Et puis en assainissant aussi les milieux de vie de ces populations pour éviter que les épidémies se propage, pour éviter que les conditions de vie réduisent finalement la longévité ou la fécondité des populations. Donc il y a vraiment une attention portée par le biopouvoir, pouvoir sur la vie, aux populations en vue de maximiser, d'optimiser les conditions de vie et les conditions de santé des populations.
Merci Philippe Sabot pour ces explications éclairantes. Je vous propose, pour essayer de mieux comprendre comment la mort, soit en pointillé, soit de façon sous-jacente, se dessine en fait derrière ces analyses d'un pouvoir qui porte sur la vie, du beau pouvoir ou de la biopolitique, on va d'abord écouter des extraits de Foucault lui-même, dans le cours qu'il donne en 1975-1976, intitulé « Il faut défendre la société ». Et pour mieux comprendre ces extraits, Céline Islekel, que j'ai présentée au début de l'émission, Assistant Professor of Philosophy à Texas A&M University, nous éclairera sur le sujet de la mort, donc cette mort soit souterraine, soit qui affleure au sein de ces développements sur le biopouvoir.
Bon, alors, dans cette technologie de pouvoir, qui a pour objet, donc, et pour objectif la vie, ce qui me paraît un des traits fondamentaux de la technologie du pouvoir depuis le 19e siècle. Comment va s'exercer le droit de tuer et la fonction du meurtre, s'il est vrai que le pouvoir de souveraineté recule de plus en plus et qu'au contraire avance de plus en plus le biopouvoir disciplinaire ou régulateur. Comment est-ce qu'un pouvoir comme celui-là peut tuer ? Comment, s'il est vrai qu'il s'agit essentiellement de majorer la vie, d'en prolonger la durée, d'en multiplier les chances, d'en détourner les accidents ou bien d'en compenser les déficits, comment dans ces conditions est-ce qu'il est possible pour un pouvoir politique de tuer, de réclamer la mort, de demander la mort, de faire tuer, de donner l'ordre de tuer, d'exposer à la mort non seulement ses ennemis, mais même ses propres citoyens, comment est-ce qu'il peut laisser mourir ce pouvoir qui a essentiellement pour objectif de faire vivre? Comment exercer le pouvoir de la mort, comment exercer la fonction de la mort dans un système politique centré sur le biopouvoir? Eh bien, je crois que c'est là qu'intervient le racisme. En gros, le racisme, je crois, il assure la fonction de mort dans l'économie du biopouvoir, selon le principe que la mort des autres, c'est le renforcement biologique de soi-même, c'est le renforcement biologique de soi-même en tant que l'on est membre d'une race ou d'une population, en tant que l'on est élément dans une pluralité unitaire et vivante.
Parmi les plus claires formulations que Foucault donne du biopouvoir, il y a « Il faut défendre la société » et le volume 1 de l'histoire de la sexualité. Le biopouvoir est une technologie du pouvoir qui a pour objet la vie. Il s'agit de la façon dont la politique, et spécifiquement dans un contexte contemporain, s'occupe de réguler et distribue les chances de vie des populations. La biopolitique a pour but de maximiser la vie en s'intéressant à l'espérance de vie dans différentes parties de la population, la régulation statistique des taux de natalité et de mortalité, de sorte à soutenir et entretenir la vie en général et les chances de vie, ou identifier, prendre pour cible et diminuer les chances de vie d'autres parties de la population. Cependant, cela soulève une question majeure concernant la mort. Compte tenu de la quantité de morts que nous observons dans le monde contemporain, qu'il s'agisse de morts de masse ou de morts violentes, comment peut-on affirmer que la méthode principale de la politique aujourd'hui est de faire vivre? Une façon d'aborder cette question est de réfléchir à la manière dont différentes technologies du pouvoir entretiennent des rapports distincts avec la mort. Dans les cours sur la société punitive, Foucault explique qu'il existe de nombreuses façons de mourir. Dans Surveiller et punir, par exemple, la souveraineté et le pouvoir classique ritualisent la mort et son spectacle. L'ouvrage commence avec l'exécution de Damien, mais en réalité, il ne s'agit pas tant de sa mort que du retardement de celle-ci, car la mort constitue la conclusion de la cérémonie punitive. Ce qui nous est donné à lire, c'est la cérémonie elle-même. Ce type de mort n'est pas celui qui prévaut dans le biopouvoir. Pour le biopouvoir, la mort devient honteuse, car elle marque le moment où le biopouvoir échoue. Foucault dit que le biopouvoir fonctionne selon le principe « faire vivre et laisser mourir ». Lorsque l'individu se replie sur lui-même et retourne à sa propre intimité, le biopouvoir ne peut plus agir. En quelque sorte, il semble que le biopouvoir ne puisse traiter la mort que lorsqu'elle est une affaire privée. Et lorsqu'il laisse mourir, cela ne peut être qu'une affaire privée. Il est important de se méfier d'une lecture trop optimiste de la biopolitique. La mort n'y est pas absente. Au contraire, le racisme en est la fonction mortifère. Cette fois, cette fonction opère au niveau de la population. Dans « Il faut défendre la société », Foucault est très clair à ce sujet. Il existe une exigence de racisme dans le biopouvoir. Une rupture entre ce qui doit vivre et ce qui doit mourir est présentée comme une sorte d'assurance. Plus on tue, plus la population vivra. C'est ainsi que le biopouvoir a accès à la mort. La mort de masse peut être associée à des idées comme la santé et le bien-être. La mort d'une population entière peut être considérée comme normale ou saine pour la biopolitique. La mort ne s'oppose pas à la vie. C'est à partir de ce point dans l'œuvre de Foucault que des penseurs comme Achille Mbembe ont développé l'idée de nécropolitique. Selon cette perspective, la mort génocidaire, un génocide, apparaît comme une technologie politique. Avec cette transformation de la politique, la mort de masse ne relève plus de la guerre, mais devient une technique politique activement recherchée. Il est important de noter que la mort ne constitue pas un simple état naturel ou biologique. Dans ses cours, Foucault parle également de la mort comme d'un droit. Par exemple, il dit que le sujet n'a, par droit, ni la vie ni la mort pour le souverain. C'est grâce au souverain que le sujet a le droit d'être vivant ou mort. Le sujet peut ne pas avoir le droit de mourir. Dans la biopolitique, il y a un autre élément. Que se passe-t-il lorsque l'on n'est pas laissé mourir? Si la biopolitique fonctionne selon le principe « faire vivre ou laisser mourir », que se passe-t-il lorsque l'on n'est pas autorisé à mourir? On peut penser à la vie d'une personne esclavagisée, maintenue dans un état de blessure permanente, mais à qui l'on interdit de mourir. Dans mes travaux, j'aborde également les types de morts produites par la politique contemporaine qui ne sont pas comptabilisées ou enregistrées comme telles. Mes exemples incluent les disparitions forcées, des personnes détenues qui meurent en prison, dont les restes ne sont jamais rendus à leur famille et dont les décès ne sont jamais enregistrés. Il semble exister une possibilité de mort interdite, une mort qui n'est pas là.
Vous êtes bien sur Aligre FM, philosophie au présent. Aujourd'hui, Foucault et la mort. Nous venons d'entendre Céline Islekel, parler du biopouvoir et évoquer évidemment un certain nombre de questions qui sont d'une brûlante actualité. Avec nos invités, Anna Sforgini et Philippe Sabot, quelles sont vos réactions? Je ne sais pas qui veut commencer, Philippe.
Alors, ce qu'a dit Céline est très, très important pour rappeler l'actualité finalement de la biopolitique et de la question de la mort qui se loge dans la biopolitique telle que Foucault l'a élaborée il y a pourtant déjà une cinquantaine d'années. Ce que je retiendrai, c'est finalement, puisqu'elle a parlé de biopolitique, et de son prolongement chez Achille Mbembe avec la nécropolitique, c'est qu'entre les deux, il y a une notion que Foucault lui-même introduit dans les années 70, qui est celle de thanatopolitique. Et au fond, la thanatopolitique, c'est le revers un peu spectral, inquiétant de la biopolitique, puisque, comme ça a été dit tout à l'heure, la biopolitique, et comme l'a rappelé Céline, la biopolitique, c'est la maximisation de la vie. Mais cette maximisation de la vie ne se fait pas sans condition, elle se fait sous condition, et la condition principale qui s'exerce, c'est de différencier à l'intérieur d'une même population ceux qui vont avoir peut-être plus le droit de vivre que d'autres, qu'on va, sinon faire mourir, du moins exposer suffisamment à un risque de mort pour qu'ils finissent par disparaître, parfois sans laisser de traces, comme ça a été dit. Donc je pense que cette notion de thanatopolitique, elle indique bien l'importance que Foucault accorde à la logique de mort qui est inscrite dans la biopolitique elle-même, raison effectivement pour laquelle il ne faut pas être trop optimiste avec cette notion de biopolitique, comme ça a été rappelé.
Rien à Sordini ?
Oui, en effet, Foucault élabore ces concepts donc par rapport au 19e siècle. Et c'est intéressant de voir que le 19e siècle est aussi les moments de la naissance, de la diffusion du racisme biologique. C'est-à-dire qu'on va chercher à travers ce qu'aujourd'hui on dirait des prétendues sciences, mais bon, des discours scientifiques, des critères qui permettent justement de différencier des hiérarchies. Les êtres vivants entre eux. Donc c'est vrai que c'est un pouvoir biopolitique, est un pouvoir sur l'homme en tant qu'espèce, en tant que vivant, mais immédiatement, enfin déjà à partir du 19e siècle lui-même, la science vient différencier ces vivants en individus qui ont plus ou moins d'importance, en fait, plus ou moins de valeur. Et donc, comme Céline le disait très bien, c'est clair qu'il faut maximiser les chances de vie et de survie des individus de la race supérieure, qui ont plus de valeur. Les autres, il y a aussi eu des plans de stérilisation forcée et on peut arriver jusqu'à des plans génocidaires. Enfin, le nazisme est pris par Foucault comme exemple du point limite de tous ces parcours. Je pense qu'on pourrait en trouver d'autres. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que Foucault, encore une fois, parlait du 19e siècle essentiellement, mais on voit bien que tous ces concepts se sont mis à l'épreuve et encore aujourd'hui nous parlent, en tout cas. Encore, il me semble, mais qu'encore aujourd'hui, on est pris par ces questions. Est-ce qu'on a tous la même valeur dans une société, dans notre pays? Est-ce que la vie de chacun compte de la même manière ou pas?
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Merci Arianna Sforzini pour cet éclairage, merci Philippe Sabot aussi d'être avec nous. On pourrait peut-être sans doute ajouter que néanmoins, tout comme aucune relation de pouvoir selon Foucault n'est jamais seulement une domination sans résistance, de la même façon, une lecture nuancée de la place de la mort dans les analyses du biopouvoir semble s'imposer. Peut-on dire que la mort constitue l'objet d'une pratique de soi, peut-être, ou d'une résistance chez Foucault? Peut-être dans ce qu'il appelle subjectivation, la façon dont on se constitue soi-même, non tant en dépit, mais à même des relations de pouvoir dans lesquelles nous sommes toujours pris et prises. Si la mort est objet de pouvoir, si même à certains égards elle semble lui échapper, ne peut-on avancer cette hypothèse? Je voudrais d'abord laisser la parole à Céline Islekel à ce sujet.
La mort n'est pas seulement un élément de pouvoir ou comme n'importe quel objet ou relation de pouvoir. Elle intervient également dans les processus de subjectivation. Foucault parle même de sa propre écriture en relation avec de telles pratiques. Deux textes clés illustrent cela. D'abord, le discours commence après la mort, un entretien avec Claude Bonnefoy de 1968. Foucault y déclare qu'on écrit sur la mort de l'autre comme si l'autre était déjà mort, ou dans la mesure où il, elle, est déjà mort. Il dit « J'écris sur le cadavre des autres ». Cela ne signifie pas exactement écrire pour tuer l'autre, mais plutôt un travail funéraire, un travail de veillée, écrire comme un acte de soin envers les morts. Ensuite, dans La vie des hommes d'infâmes, à l'origine écrit comme introduction pour son travail d'archives sur les familles en désordre, il y décrit son engagement avec les archives comme un engagement avec des morts qui auraient disparu sans cet éclair de pouvoir qui les a frappés. Il décrit ce travail archivistique comme un engagement avec de telles morts, comme un moyen de porter témoignage à des morts qui n'auraient autrement laissé aucune trace. Enfin, affronter la mort, ou même sa propre mort, est une pratique à un autre niveau. Plus tard dans son œuvre, lorsqu'il aborde les pratiques de soi et la parésie, le parler vrai grec, cela devient très clair. Dans la parésie socratique, par exemple, il dit que Socrate risque sa propre mort pour pratiquer la parésie. Dire la vérité est une forme de risque de la mort. Cela signifie aussi que le rapport de chacun à sa propre mort fait partie de la résistance. Et cela peut être une forme de résistance en soi. L'idée de nécro-résistance, développée par des penseurs comme Bono Barbo, suggère que si la mort est une cible du pouvoir, un objet du pouvoir, elle peut aussi être un objet de résistance. On peut revendiquer son droit à mourir. Ou, comme Socrate semble le faire, on peut revendiquer sa propre mort plutôt que de simplement accepter la mort comme une punition ou comme quelque chose qui nous est imposé de l'extérieur. Ainsi, il ne s'agit pas seulement d'un processus de soumission à la mort, mais on peut devenir sujet à travers son propre rapport à la mort. En somme, La mort est effectivement l'un des concepts clés qui traverse toute l'œuvre de Foucault à différents moments. Elle joue un rôle central non seulement dans le développement de l'idée de pouvoir et de biopouvoir, mais aussi en ce qui concerne la subjectivité. C'est donc l'un de ces points de connexion essentiels entre les relations de pouvoir et le sujet, ainsi qu'avec l'éthique.
Radio Aligre FM, philosophie au présent, nous vous présentons une émission sur Foucault et la mort avec nos trois invités, Philippe Sabot, Ariana Sforcini et Céline Hislekel, que nous venons d'écouter. Alors, je l'ai dit en commençant cette émission, le biographique vient percuter le philosophique et réciproquement. On peut dire que la mort de Foucault est politique. Homosexuel, il est mort du sida, et nous voudrions écouter brièvement Daniel Defer, qui fut son compagnon pendant plus de 20 ans, légataire, qui a fondé AIDE en 1984 pour précisément lutter contre les effets du sida. Et il me semble que témoignage, ces quelques mots de Daniel Defer ne sont pas sans rapport avec ce que Céline a formulé à l'instant avec force.
Et dans une maladie extrêmement stigmatisée à l'époque, c'était pratiquement une dévalorisation de la personne qui était proposée. C'est ce qui a été pratiquement dit dans Libération, c'était énorme. C'était un article malheureux de gens qui sont parfois, que j'aimais bien les gens de Libération, mais qui fait un article. On prétend que c'est le sida, comme si on avait voulu qu'il meure ignominieusement. Enfin, c'est à peu près ça que dit l'article, ce qui est énorme, énorme. Parce que non seulement on admet que c'est un stigmate, mais la dénégation était aussi ignoble que l'affirmation. Enfin, bon. Donc il était exclu de parler du cas. Bon, progressivement, ça s'est fait forcément, mais parce qu'il aurait été aussi très gênant de faire le silence sur quelque chose qui n'aurait de toute façon été su, on n'aurait pas compris ce silence. Nous avions été toujours dans un rapport à la vérité. Nous avions toujours été dans un combat sur des enjeux de vérité. La question de la vérité est une question centrale de la philosophie de Foucault. Et c'est une approche nietzschéenne, ce n'est pas une approche de la vérité très très problématisée, comme Nietzsche l'a problématisée. Donc il n'était pas question d'en faire un étendard, parce que c'était contraire à l'éthique médicale, mais il n'était pas question d'en faire une honte ou un silence. Donc il fallait trouver une solution, et la seule solution, c'était de faire quelque chose et pas de dire quelque chose. En plus, je n'avais pas de notoriété pour dire des choses. Par contre, je savais un peu faire, parce que j'avais milité. J'avais milité, on travaillait en Algérie, j'avais milité surtout avec Foucault dans le groupe Information sur les prisons. Et ayant milité avec Foucault, il y avait deux choses. Je savais faire, et puis je continuais à être avec lui. C'était, pour moi, c'était un peu mon deuil. Je faisais mon deuil avec lui, c'est-à-dire je continuais à faire les choses que nous avions faites ensemble. Et ça, ça comptait beaucoup pour moi. Ça, c'était vraiment ma manière d'affirmer mon deuil.
On vient d'écouter Daniel Defer dans un passage d'une émission très émouvant qui a été diffusée sur France Culture à voix nue. Sida, prison, décolonisation, la vie militante de Daniel Defer. En 2014. Quelles sont vos réactions, Ariana Sforcini, peut-être d'abord ?
Je trouve ce passage très touchant parce qu'effectivement, on y retrouve à la fois toute la tendresse du rapport de Daniel Defer avec Michel Foucault et les désirs surtout que ces liens restent vivants, justement, même avec la mort de son compagnon. Et donc, les désirs de les transformer en quelque chose comme une militance, en fait, la création de AIDE qui est devenue effectivement une association très, très importante et qui avait justement parmi ses buts de ne pas laisser les malades de sida seul, de ne pas, enfin, cette idée de d'amitié qui est un concept important aussi pour Foucault. Enfin, ces types de relations que les personnes homosexuelles en particulier tissaient entre elles, en dehors des cadres légaux du mariage, c'était des liens très importants et qu'il fallait resserrer même au moment de la maladie, quand effectivement les cadres institutionnels pouvaient se réapproprier de certains de ces droits. Mais il y a aussi effectivement une référence au cœur de la pensée de Foucault, qui encore une fois était une sorte de courage de la vérité, dit Daniel Defferre. Et donc l'importance à la fois, parce que de fait Foucault n'a, pendant les derniers mois de sa maladie, ça aussi, est-ce que on se le demande encore. Enfin, lui, il a rien dit.
Le savait-il?
Savait-il surtout qu'il était condamné à mourir un peu de temps? Jusqu'à quel point il savait de quelle maladie s'agissait? Donc ça, on n'a pas de réponse. Lui, Foucault n'a pas parlé sur ça. Donc il faut aussi respecter ses choix de relation face à la maladie et à sa propre mort au final. Mais en même temps, et Defferre le dit très bien, il fallait pas faire de ces silences qui a certainement des raisons personnelles, voilà, et c'est un droit de Foucault, il fallait pas en faire une honte par rapport surtout aux raisons de cette morte, au contraire. Donc il ne fallait pas imaginer que Foucault avait honte du sida ou de son homosexualité, etc., etc. Et donc les mettre en acte, faire quelque chose pour continuer le legs de Foucault, c'était pour lui la manière de faire son deuil, et je comprends.
Oui, merci. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Ariana. J'aurais envie d'ajouter quelque chose sur justement le sida en 1984, au moment où Foucault donc meurt. Le sida qui est d'une certaine manière un événement biopolitique, c'est-à-dire que, comme on a pu le rappeler précédemment, il s'agit vraiment d'une maladie qui expose de manière différentielle la population à la mort. La mort frappe des populations stigmatisées, homosexuelles, usagers de drogue, qui sont justement des populations qu'on laisse mourir d'une certaine façon, même si il y a une prise en charge médicale, mais qu'on finit par laisser mourir quand même au profit peut-être d'autres vies auxquelles on accorde à ce moment-là plus de valeur. Donc il y a cette dimension-là qui est très présente, je pense, à l'esprit de Daniel Defferre aussi lorsqu'il parle. Et puis, effectivement, moi, je suis très sensible aussi en entendant Daniel Defferre, très sensible à cette idée de convertir finalement une expérience extrêmement intime de deuil, de la mort d'un proche, dans une forme de subjectivation politique et militante. Et Daniel Defferre le dit très bien en mettant aussi en parallèle l'engagement dans le groupe Information Prison au début des années 70 et puis la naissance de Aide, donc au milieu des années 80, avec la même logique finalement, c'est-à-dire que c'est pas juste cette mort ne doit pas avoir été inutile, mais c'est la revendication que de cette mort et de toutes les autres morts, évidemment qui ne sont pas dissociables de celle de Michel Foucault, sorte quelque chose qui soit aussi une parole possible pour des populations qui, encore une fois, n'avaient pas droit au chapitre, qu'on invisibilisait, comme on dit maintenant, au sein des hôpitaux pour ne pas affoler la population générale. Donc je pense que voilà, il y a cette volonté aussi dans la naissance de Aide de briser un silence qui finalement aurait été une deuxième mort, si je peux l'exprimer ainsi. Alors il y a un texte, si je peux juste ajouter ça, un texte de Daniel Defer que j'ai toujours trouvé très, très, très important de ce point de vue-là, qui est un texte qui résume aussi un peu le fond de sa pensée sur cette logique militante qu'il expose là dans cet extrait, qui est un texte qui s'intitule « Le malade, un réformateur social ?» et qui, justement, donne lieu dans les années qui vont suivre, puis ça prend un certain temps, aux droits des malades, et donc à la restauration d'une parole chez des individus qui, parfois, sont confinés dans le langage médico-technique, en tout cas qui n'apparaissent que dans ce langage-là, mais qui là ont pu avoir, à travers cette association AIDE, l'occasion de s'exprimer en leur nom propre pour des problématiques qui touchaient à leur vie et aussi au risque de mort qui les concernaient. Et donc il y a quelque chose là qui est vraiment très, très important dans la logique politique de Daniel Defer au moment de la création de AIDE, qui, d'une certaine manière, prolonge dans un geste collectif et militant la mort d'un homme, d'un proche, qui est d'une certaine manière l'indice d'un événement biopolitique dont il faut se saisir.
Merci Philippe Sabot, merci Arianna Sforzini pour ces mots. Vous écoutez Philosophie au présent sur Aligre FM. Nous sommes aujourd'hui le 27 juin 2026 et on peut dire qu'il s'agit en quelque sorte d'une émission hommage et qui a vocation à explorer ce que la mort de Foucault nous donne à penser, cette mort qui est survenue le 25 juin 1984. On va écouter pour clore un peu cette exploration un extrait du tout dernier cours de Foucault, justement, et qui porte sur la mort de Socrate.
La mort de Socrate, l'exercice de sa parésia, qui l'exposait à la mort, et l'exposait bel et bien à la mort, puisqu'en effet, il en est mort, la mort de Socrate, l'exercice de son dire vrai, et finalement, cette application à provoquer les autres à se soucier d'eux-mêmes, tout comme il prenait soin de se soucier de soi, tout ceci constitue un ensemble très serré, dont les fils s'entrecroisent tout au long de la série de la mort de Socrate, Apologie, Criton, Phédon. Tous ces fils traversent en permanence ces trois textes et ils viennent se nouer une dernière fois dans la dernière recommandation de Socrate ou dans les deux dernières recommandations de Socrate d'une façon éclatante lorsqu'il dit « Eh bien, ma dernière volonté, c'est de vous occuper de vous-même » et une seconde fois, de façon symbolique, renvoyant cette fois non plus aux soucis que les hommes doivent avoir d'eux-mêmes, mais au souci que les dieux ont des hommes pour qu'ils aient souci d'eux-mêmes, sous la forme du sacrifice à Asclépios, où ces fils viennent se nouer une dernière fois dans ce sacrifice du coq, c'est cette mission concernant le soin de sa vie, de la vie, le soin de soi-même, qui a conduit Socrate à la mort, c'est ce principe de s'occuper de soi-même qui lègue par-delà sa mort aux autres, et c'est aux dieux bénéfiques pour ce soin de soi-même qu'il adresse sa dernière pensée. La mort de Socrate fonde bien, je crois, dans la réalité de la pensée grecque et donc dans l'histoire occidentale, la philosophie comme une forme de véridiction qui n'est ni celle de la prophétie, ni celle de la sagesse, ni celle de la techné, forme de véridiction qui est propre précisément au discours philosophique et dont le courage doit s'exercer jusqu'à la mort comme une épreuve d'âme qui ne peut pas avoir son lieu sur la tribune politique. Voilà. Eh bien, pardon de vous avoir retenu longtemps, merci.
C'est les tout derniers mots de Foucault dans ses cours au Collège de France que vous venez d'entendre. Alors, on voit un peu le lien avec le parler vrai, avec la parésia grecque dont on a déjà parlé. Est-ce qu'on pourrait peut-être, Arianna Sforzini, revenir un petit peu sur cette notion et puis plus largement, sans doute, se poser la question de savoir comment les Grecs constituent un levier critique, d'une certaine façon, pour Foucault. De quelle manière la philosophie exige de nous un déplacement qui en ferait une ressource pour nous, modernes. Et puis, surtout, on retrouve ce thème de la mort qui est le nôtre aujourd'hui, avec le risque de mort qui sous-tend toute parésia, le parler vrai d'un Socrate par exemple. Comment est-ce que cette mort prend une place centrale? Comment est-ce que l'activité morticole, celle qui consiste à cultiver la mort et qu'on trouve dans la philosophie antique, se présente comme tendue entre le soin de l'âme et la préparation à la mort?
Alors, je pense que les derniers mots de Socrate, qui sont évoqués dans cet extrait, sont particulièrement intéressants parce que justement, Socrate n'est pas un philosophe de ce qu'on connaît évidemment de sa figure par Platon et d'autres. N'est pas un philosophe qui avait des pratiques ascétiques de préparation à la mort, comme on pourrait les retrouver dans les écoles hellénistiques, après les stoïciens, etc. Et c'est pour cela d'ailleurs, sur ces derniers mots, même Nietzsche avait écrit, et Nietzsche avait exprimé tout son mécontentement. Il avait trouvé dans la figure des Socrates enfin un philosophe justement qui jouait sur l'ironie, était provocateur, était un philosophe au fond qui aimait la vie, qui aimait les banquets, le bon vivre, etc. Comment il a pu, à la fin de sa vie, prononcer des mots comme comme je meurs, il faut que remercier les dieux. Comment comprendre cette énigmatique formule finale des Socrates? Pour Nietzsche, il était un mépriseur, caché de la vie, en fait. Bien, Foucault, en reprenant après d'autres interprétations comme celle de Dumézil, en donne une interprétation toute différente. Enfin, il considère que la chose dont Socrate pense que lui et Criton, par ailleurs, parce que c'est intéressant aussi de voir que dans ses dernières formules, il ne dit pas « je dois » un coq à Esculape, il dit « nous ». Donc déjà, il y a un rapport avec un autre, un ami, dans ce cas Criton. La chose dont il veut remercier les dieux, ce n'est pas la mort, ça fond. Ce n'est pas d'avoir été libéré, enfant, de ces boulets qui est le corps. Mais en fait, c'est avoir réussi à arriver à la fin de sa vie en restant cohérent avec les principes qu'il énonçait. D'avoir fait de cette vérité qu'il a au fond incité tous les Athéniens à rechercher, il en a fait vraiment quelque chose qui est devenu un style de vie jusqu'à sa mort, et il n'a pas cédé. Criton lui a, c'est dans la trilogie de la mort des Socrates, Criton lui avait proposé de s'évader et d'échapper à la mort. Mais ce n'est pas que Socrate voulait mourir. Ce que n'est pas accepter la mort dans ces cadres-là aurait voulu dire aller contre cette même vérité qu'il avait affirmée jusque-là. Et je pense que cette idée d'une vérité épreuve de la vie, c'est le centre justement de la parésia. Le parésiaste lui aussi ne veut pas mourir, mais il accepte le risque de mourir parce que affirmer cette vérité qu'il sent comme fondamental, existentiel, est plus important que le risque de perdre sa vie. Et il y a quelque chose certainement de très troublant, même si encore une fois il ne faut pas faire du biographique un critère d'explication psychologique, mais c'est très troublant d'entendre Foucault parler de ça quelques semaines avant sa mort, et tout en se demandant mais est-ce qu'il savait justement, je pense pas que ce soit un hasard qu'il se soit penché aussi sur cette pensée de la mort.
Est-ce que à l'issue de ce parcours, finalement, on est passé par les entretiens, par les analyses du biopouvoir, maintenant on a parlé et de parésia et de la mort de Socrate, est-ce que finalement on gagne un peu à diffracter cette question de la mort, ou est-ce qu'il y a quelque chose, Philippe Sabot, qui vous semble peut-être unifier cette notion à travers tous ces passages?
Oui, alors ce serait difficile de trouver, il ne faut peut-être pas d'ailleurs trouver trop de cohérence dans tout ce parcours. On a vu que la mort était présente finalement dans ce partage avec la vie à l'intérieur d'un grand nombre de textes et sur une trentaine d'années. Ce sur quoi je voudrais peut-être insister, c'est finalement comment dire, autour de cette du fil qu'on a tiré juste avant, la biopolitique, et ce qu'on vient d'entendre et ce qu'Ariana a dit, il me semble qu'il y a quelque chose quand même qui est ici intéressant et qui porte sur le risque de mort finalement, parce que dans la biopolitique, on a pu dire qu'il y avait une exposition différentielle à la mort. Pour maximiser la vie de certaines populations, on est prêt à en laisser mourir d'autres. Donc l'exposition ici, elle est subie, alors que dans ces derniers mots, on voit que, et à travers la parésia, l'exposition, elle est active, elle relève, on pourrait dire, presque d'une subjectivation politique. Elle relève presque d'un militantisme de la part de Socrate, en risquant l'anachronisme. Et donc, ça me semble intéressant de voir que Foucault a exploré finalement ces différents versants, en gardant aussi à l'esprit que pour lui, il ne s'agit pas de faire de Socrate un modèle à suivre pour savoir comment vivre et comment mourir, mais c'est plutôt l'idée qui est au fond peut-être le fil rouge de la pensée de Foucault, que la vérité n'est pas séparable d'une manière de vivre, et que c'est pour ça qu'il y a un enracinement biographique quand même dans tout ce questionnement. Le souci de soi, c'est un travail éthique, c'est-à-dire un travail sur soi. Le rapport à la mort, c'est l'épreuve, la mise à l'épreuve de ce travail. Et donc finalement, face à une modernité qui instrumentalise la mort, qui cherche à la gouverner à tout prix, qui cherche à la médicaliser, qui cherche parfois même aussi à en faire un non-événement, comme le disait Céline, en faisant disparaître les morts eux-mêmes. Le modèle antique, ce que nous laisse l'Antiquité, c'est aussi la possibilité de rouvrir un rapport libre à sa propre finitude.
Merci Philippe Sabot, merci Ariana Sportini. Il me reste avec Michel Kokoreff, avec qui j'ai eu le plaisir d'animer cette émission, à vous remercier chaudement en cette journée de canicule de nous avoir accompagnés dans cette exploration, dans cette façon de se souvenir en essayant de penser au 25 juin 1984 quand Foucault nous a quittés. Merci à Aligre FM et merci en particulier à Philippe Donnefort à la technique. Merci encore à Camille Marou qui a prêté sa voix au doublage de celle de Céline Islekel, qui a eu aussi la gentillesse de s'enregistrer. Merci enfin au Collège international de philosophie qui nous permet à Michel Kokoreff et moi-même, mais aussi à beaucoup d'autres, d'essayer encore de mettre la philosophie au présent.
Et merci à tous et merci aussi à Marion Polaert. À bientôt sur Philosophie au présent.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.